4 ordskifte, 5 eventuelt. Styret er kjent at den 29. september var det sendt en adresse til det norske studentersamfunnet i New York til 50-årsjubileet deres. Den 4. oktober var det sendt et brev til redaktøren av Unge Høyre som svar på en artikkel i Unge Høyre nummer 22. Brevet hadde denne ordlyden. Herr redaktør Jan Brekke, Unge Høyre, Pilestrede 75C, Oslo Nordvest. Herr redaktør, i siste nummer av deres avis Unge Høyre hadde de en stort oppslått artikkel på første side angående innbydelsen av politimajor Alex Lange til å tale i studentersamfunnet i Trondheim og knytter i denne forbindelse noen kommentarer til formannens personlige politiske innstilling. Til slutt i omtalt artikkel trekker de det norske studentersamfunnet inn i bildet og konkluderer med følgende. Anførsel. I studentersamfunnet i Oslo og Trondheim tilhører formennene dette semester Dagbladet Venstre. I Trondheim åpner man å invitere en landsviker i Oslo med en resolusjon om nærmere samarbeid med bøddelen i Moskva. Flinke gutter det der. Anførsel slutt. Styret i det norske studentersamfunnet finner denne sammenstilling som de har foretatt usedvanlig smakløs og utiltalende, og anser nevnte artikkel for å representere noen er det absolutte lavmål av demagogisk behandling av stoff i norsk presse. For øvrig bør det opplyses at avstemningen i det norske studentersamfunnet i spørsmål om gjenopptakelse av studentutvekslingen med Sovjet ikke har fulgt politiske skillelinjer, og at en rekke fremtredende medlemmer av DKSF har gått inn for studentutvekslingen. Vi vil i den anledning vise til følgende resolusjon vedtatt av det norske studentersamfunn 9. november 1957. Anførsel. Det norske studentersamfunn samlet i møte den 9. november 1957 henstiller til styre og arbeide for gjenopptagelse av studentutveksling med Sovjet. Vi vil understreke at dette ikke innebærer noen forandring i studentersamfunns syn på russernes intervensjon i Ungarn, som var foranledningen til avbrytelsen. Anførsel slutt. Av de 6 forslagstillerne var følgende 3 fremtredende medlemmer av Unge Høyre. Lars Roar Langslett, Karl Sanne og Fridtjof Frank Undersen. Ærbødigst Norske Studentersamfunn, Magne Lerheim formann. PS. Vi ber om at dette blir offentliggjort i deres avis. Protokollen er underskriven av Magne Lerheim og Bente Heiberg.
Er det merknad til protokollen? Ikke kommet fram. Protokollen er godkjent. Som punkt 2 på dagsorden i kveld står et foredrag av en fransk politiker, François Mitterrand. Det norske studentersamfunnet er svært glad over å kunne presentere en av de som står fremst i fransk politikk i disse dager, da så stor del av vår interesse nettopp knytter seg om utviklingen i Frankrike. Efter noen begivenhetsrike uker i sommer, så har vi igjen hatt noen begivenhetsrike uker nå i slutten av september, som foreløpig kulminerte med folkeavstemning. I denne folkeavstemningen så ble det et spørsmål om for og imot Gaulle. Men på lengre sikt så tror vi at det ikke er et spørsmål om å være for og imot Gaulle. Vi tror at et lands konstitusjon må forankres i noe dypere og mer håndfast enn en persons personlighet. Derfor er det at vi også har bedt den franske politikeren Mitterrand om å snakke om det mer generelle emnet «Hvor går Frankrike?». Vi ser jo også med bekymring på den franske utvikling som et tegn på eventuelle svakheter i de andre demokratier i de vestlige land. Og vi tror at en dyptgående analyse av det som skjer i Frankrike også har relevans i de politiske forhold i mange andre land. Derfor er det at vi har bedt en av de som har stått mot den nåværende utviklingen i Frankrike, men som har gjort dette på et langt mer saklig grunnlag enn vi har kunnet finne hos andre. Jeg tenker for eksempel på den klare avstandtagen som er tatt i forhold til kommunistene, som gjør at vi ikke ønsker François Mitterrand velkommen som en motstander av de Gaulle, men vi ønsker han velkommen som en fransk politiker som har analysert de vanskene som hans eget land står oppi. Monsieur Mitterrand, l'association des étudiants norvégiennes est très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir. En Norvège, comme dans les autres pays, l'évolution de la politique française et suivi avec intérêt et un peu d'anxiété. Nous sommes d'autant plus heureux que vous avez voulu venir ce jour-ci et nous expliquer la signification des événements récents et leur portée pour le futur de la France, qui est aussi le futur de l'Europe. La parole est à vous, M. Mitterrand.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est au cours d'une tournée que je faisais dans le département que je représente au Parlement, au centre de la France, que m'a touché un coup de téléphone d'Oslo. C'étaient les étudiants norvégiens qui me demandaient de venir dans leur pays. Je pensais que tant de persévérance et tant d'ingéniosité pour me trouver dans une région plus perdue que ne peut l'être le plus lointain de vos fjords méritait au moins que je dise oui.
Mesdames et Messieurs. Mine Damen und Herren, det en turné som jeg hadde midt i Frankrike i det departementet hvis representant jeg er i parlamentet, at jeg fikk en oppringning fra Oslo. Det var de norske studenter som ba meg å komme her i deres land. Og jeg kunne ikke si nei, da de hadde lagt så meget arbeid for å finne meg i på et sted som så langt borte som det kan få blitt.
Je suis heureux de me trouver parmi vous ce soir, étudiantes et étudiants, que tant de problèmes sollicitent, et aussi les éminentes personnalités norvégiennes ou françaises qui ont bien voulu venir jusqu'ici. Je citerai spécialement la présence à laquelle je suis sensible de mon ami M. Trugvelli, que j'ai connu à Paris et à New York dans les très hautes fonctions qu'il occupait. Il honore ici cette conférence de sa présence.
Hier, glad over her blant studenter som åpne for de problemene som opptar oss i dag. Og jeg er særlig glad å se at personaliteter, både franske og norske, er kommet. Særlig herr Trygveli, som jeg kjenner godt, både fra Paris og fra FN i New York. Jeg er meget glad at han er her til stede i kveld.
Au lendemain de la guerre de 1939-1945, la France, pays occupé par l'ennemi, eut à faire tout à la fois. Refaire ses finances, réformer sa structure sociale, définir de nouvelles institutions, sa constitution, aborder enfin, comme cela était nécessaire, les problèmes extérieurs. Le pays était en partie détruit, sa jeunesse absente, ses élites politiques dispersées ou disparues. Le désordre était partout, mais cependant la France se trouvait dans le camp des vainqueurs.
Et de Krigen 1939-45 i det ett land som hade varit besatt av fienden, måtte man starta från grunden av. Frankrike måtte bygga igen sina finanser, finna igen en social struktur, en ny författning och särskilt också ordna med problemen i de översvenska områdena. Landet var delvis ödelagt. Ungdomen var borta. Politikerna också var borta eller inte kommer tillbaka igen. Och det var ganska vanskeliga förhåll.
Pour obéir à son tempérament, on a d'abord fait une constitution. Car en France, dès qu'un changement de politique intérieure se produit, aussitôt on veut l'écrire. Au XIXe siècle, comme au XXe siècle, nous avons additionné les constitutions écrites. Chaque fois qu'un empereur, un roi, une république, et ils ont été nombreux, se sont succédés, ils ont voulu codifier leur régime. Ceci est une habitude française qui nous différencie des habitudes anglo-saxonnes où l'on n'écrit pas ce que l'on fait. La constitution de 1946 a été adoptée par une coalition politique qui comportait le parti communiste, le parti socialiste et la démocratie chrétienne. Quelques autres partis politiques s'étaient prononcés contre cette constitution à l'appel du général de Gaulle et aussi des vieux radicaux qui pendant longtemps ont dirigé la Troisième République.
Efter fransmännens första efter en fransman temperaments första inskjutelse så var det först en måte att ta sig till och skriva ned en författning. Är det en förändring som sker i Frankrike så må man ha det skriftligt. Enten man går tillbaka till 19 århundre eller nå i vår århundre, så har vi samlet på skrevede forfatninger. Har det vært keiserdømme, kongedømme eller republikk, så har man måttet ha enhver forandring skrevet. Derfor måtte man begynne også i 46 med å skrive ned en forfatning. Konstitusjonen av 1946 ble vedtatt av en politisk samling som bestod av kommunistene, socialisterna och de kristliga folkrepublikanerna och en del andra partier var emot. Men general de Gaulle och radikalerna som länge hade ledet Frankrike mellan krigsåren fick samlat folk för den nya författningen.
Je n'ai pas de chance avec les constitutions de mon pays. J'ai déjà voté contre. Mais à cette époque, un certain nombre d'hommes sages, sans doute, ont expliqué que cette constitution était la meilleure. On observera un peu plus tard que tous les signataires de la constitution de 1946, sauf les communistes, ont recommandé au suffrage des Français le vote pour la Constitution de 1958. Ce qui donne une image précise et pittoresque de la suite dans les idées.
Jeg ikke heldig med mitt lands forfatninger. Jeg stemte allerede mot den gangen. Men en del vise menn forklarte da at det var den beste forfatningen kunne få. Merkelig nok alle som undertegnet författningen i 46, också att finna nu bland de som är för författningen i 58. Det är folk som liksom har de la suite dans les idées. Jag beklagar, jag har inte det norska uttryck för det.
Par la suite, la constitution de 1946 a vu l'instabilité ministérielle française, caractéristique de la Troisième République, se poursuivre. Beaucoup de ministères se sont succédés, trop sans doute, trop certainement. J'ai pour ma part participé à 11 d'entre eux. Pendant un peu plus de 7 années, à des postes différents, intérieur, outre-mer, information, justice. Mais ne vous y trompez pas, l'instabilité ministérielle française a une conséquence surprenante à première vue, c'est-à-dire la stabilité de sa politique. Nous en parlerons tout à l'heure.
Efter författningen är 64, så fortsatte den mangel på regeringsstabilitet som hade präglat mellankrigsåren. Vi fick en god del regeringar, och själv har jag deltat i 11 av dessa. I löpet av 7 år på forskjellige poster, såsom inrikesminister, minister för de översjöiska områdena, informationsminister och i justisdepartementet. Men en ting må man märka sig, den mangel på regeringsstabilitet har ett märkligt resultat. Det är att Frankrike har en stabil politik allikevel. Och det vill han komma tillbaka till.
La quatrième république a maintenant disparu après 12 années d'existence. Son bilan n'est pas seulement négatif, comme on le dit trop souvent. Mais je ne suis pas ici son avocat. Je ne suis pas chargé de cela. Et ce serait une illusion de croire que le oui et le non au référendum français ont établi une distinction entre les défenseurs de l'ancien régime et les partisans du nouveau. Je vous disais tout à l'heure que j'avais été le ministre de nombreux présidents du Conseil. Tous, à l'exception d'un seul, M. Médès-France, ont voté pour la nouvelle Constitution. Ce qui indique bien que ce ne sont pas les défenseurs de l'ancien système qui se trouvent aujourd'hui dans l'opposition.
Den fjärde republik döde bort efter 12 år, men den har inte bara negativ status efter sig. Självfølgelig vill jag inte försvara här den fjärde republik, det är inte därför jag är här. Men det vill vara en fel att tro att den avstämningen nu, folkavstämningen mellan ja och nej, skulle dala en skille mellan de som är för det nya systemet och de som är för det gamla systemet. Jag fortalte i stället att jag hade varit statsråd under flera statsministrar. Alla dessa, bortsett från en, Mendès-France, har stämt ja till den nya författningen. Det är därför inte det är inte därför de är tillhänger à des gamles systèmes.
Je passerai rapidement là-dessus. La 4e République a laissé derrière elle finalement une monnaie saine, des réformes sociales considérables, commencées d'ailleurs au temps du premier gouvernement du général de Gaulle, des progrès techniques que je crois assez peu comparables dans l'Europe, je veux dire le progrès par rapport à ce que nous avions avant-guerre, et je ne veux pas dire en comparaison de ce que les autres pays peuvent posséder, la France a dans le domaine de la technique, de la science, de la connaissance du sous-sol et de la modernisation de la machine, fait en 12 années des progrès inimaginables. Mais ces institutions étaient pendant 12 années insuffisantes à contenir les chances de l'expansion française, et d'autre part, ce sera le vif même de cette conférence, de grandes directions sollicitaient sa politique, l'Europe et l'Afrique.
Jag vill gå fort över denna sida av saken. Den fjärde republiken har lagt efter sig en sund pengeväsen. Den har gjort stora sociala reformer som begynte allerede under de Gaulles första regering. Och det har haft ett stort tekniskt framskritt som jag tror det inte finns maken till i Europa. Jag menar alltså utvecklingen i förhåll till det vi hade för krigen. I dessa 12 år har den tekniska utvecklingen i Frankrike varit fantastisk. Men det är själva systemet som inte klarte att hålla tritt med detta. Och ändligen är det två problem som är igen. Det är det som jag ska befatta mig med ikväll. Förhållandet mellan Frankrike och Europa och i förhållande till de översjöiska områdena.
C'est aux alentours de 1948 que la France, sous l'impulsion de M. Jean Monnet et de M. Robert Schuman, a pris la direction européenne. Vous savez qu'à cette époque, le problème était d'abord militaire, en même temps que économique. Et c'est ainsi que la construction de l'Europe, qui fut l'Europe des six, a commencé par une discussion sur la constitution d'une armée européenne, communauté européenne de défense, et par une discussion sur le marché du charbon et de l'acier, qui donna naissance plus tard à ce qu'on appelle la CECA. Armée, économie. Après que la France ait pris une direction franche dans le sens d'une armée commune, son Assemblée nationale, son Parlement, mit un terme aux propositions de ses gouvernements. Par contre, en ce qui concerne le marché du charbon et de l'acier, puis le marché commun, et puis l'Euratom, la France s'est dirigée sur une Europe sur laquelle elle fait reposer aujourd'hui l'une des assises même de sa politique étrangère.
Omkring 1948, mais Jean Monnet et Robert Schuman tog Frankrike ledelsen i Europa. Det var da tout problème. En skulle ta fatt på det militære og det økonomiske. Man begynte da i diskusjonene med det militære problemet og kom til behovet for et felles Europa her. På det økonomiske plan kom man da frem til det fellesskapet for kull og stål. Når det gjelder den økonomiske side, dette fellesskapet med. Nei, når det gjelder det militære side, så tok Frankrike et bestemt standpunkt for Europa, felles her. Når det gjelder den økonomiske side, jeg vil si det kul og stål fellesskapet, senere fellesmarkedet og Euratom, så har Frankrike tatt standpunkter som det nå baserer sin politikk på.
J'ai toujours été un partisan de l'Europe et j'ai voté pour ces traités. Mais quels en furent les adversaires? Essentiellement, le Parti communiste, d'une part, et tout ce qui était nationaliste, dont le plus illustre et le plus entendu était le général de Gaulle. Aujourd'hui, le temps a passé. Certains hommes politiques qui ne sont pas d'accord avec certains aspects des événements qui viennent de se produire en France sont souvent taxés par la propagande officielle d'être avec les communistes parce qu'ils sont comme eux dans l'opposition. Que l'exemple des problèmes européens où le Parti communiste et le général de Gaulle se trouvaient dans le même camp incite à avoir un peu plus d'honnêteté dans l'analyse.
Jeg har alltid vært for Europa, og jeg har stemt for denne gangen. Den gangen var andre som var mot kommunistene og alle nasjonalistene. Den største blant disse var da de Gaulle. I dag har tiden gått, og visse politikere som ikke er enige i de siste begivenheter som har funnet sted i Frankrike, blir nå betegnet av den offisielle propaganda for å være i opposisjon, for å være kommunister, fordi de er i opposisjon.
Après les élections de 1951, une majorité modérée, conservatrice, domina le Parlement. Et au sein de cette majorité, les élus d'un grand mouvement politique qui s'appelait le Rassemblement du peuple français, que présidait le général de Gaulle, fut indispensable à l'existence de cette majorité. C'est alors qu'un coup de frein fut donné à la politique européenne et que M. Robert Schuman lui-même, père de l'Europe occidentale, qui était alors ministre des Affaires étrangères, ne fut pas en mesure de faire adopter par notre Assemblée nationale les institutions européennes. C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'Europe, le nationalisme français s'étant réveillé, pendant 5 années, il fut difficile d'aller plus loin. Ce que je dis mérite sur ce plan une parenthèse. Lorsque, aujourd'hui, le général de Gaulle se trouve chef du gouvernement, il ne faut pas conclure de son attitude en tant que chef de parti qu'il demeure hostile à l'Europe. Je suis pour ma part convaincu qu'il a largement dépassé ce stade du nationalisme primaire et que demain, délaissant ses anciennes positions, il respectera les traités qui engagent la France et qu'il poussera plus loin la construction dans laquelle je crois. Ce n'est pas parce que je suis membre de l'opposition française que je mets en doute pour autant les intentions louables de ceux qui gouvernent mon pays.
Efter valgen i 51 var flertallet dannet av liberale konservative, og bland disse var en stor samling RPF under general de Gaulle. Denne gaulliske samling måtte til for å kunne danne et flertall. Det er under dette flertall at man bremset på den europeiske politikk i Frankrike. Og Robert Schuman klarte da ikke å få vedtatt de tingene som han hadde arbeidet for. Da hadde den franske nasjonalismen våknet, og i fem år så var det umulig å gå lenger når det gjaldt Europa. Jeg vil her åpne en parentes. I dag er de Gaulle regjeringssjef, men man skal ikke trekke denne slutningen at han vil ta med seg den ideen han hadde før mot Europa. Han er ikke lenger det han kaller en primær nasjonalist. Og jeg tror at de Gaulle vil respektere de avtaler som binder Frankrike, og at han selv senere vil fortsette det arbeidet som jeg har tro på for en europeisk politikk.
Le problème qui a dominé malgré tout toute l'histoire de notre après-guerre a été le problème colonial. La France restaurée dans son économie, la France engagée dans sa politique européenne, a hésité à fixer sa politique à l'égard des immenses territoires qui sur les quatre autres continents appartenaient autrefois à ce que l'on appelait l'Empire colonial et à ce que l'on appelait depuis 1946 l'Union française. L'Indochine en Asie, le bloc de l'Afrique noire et de Madagascar, l'Afrique blanche avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, enfin certaines possessions d'Amérique et d'Océanie. Cet empire immense, presque aussi vaste que l'empire britannique en 1945, devait provoquer à la fois sur le plan extérieur, sur le plan d'outre-mer et finalement sur le plan de notre politique intérieure, des convulsions telles que la 4e République ne put en survivre.
Det største problemet allikevel etter krigen har vært problemet med koloniene. Da Frankrike var engasjert i sin kamp for å sette opp sin økonomi igjen og engasjert i det europeiske politikk, så ventet man med å bestemme en politikk for de store territorier som dannet det franske koloniriket, som fra 1946 blir kalt for Union Française. Jeg sikter til Indokina, den sorte Afrika med Madagaskar, den hvite Afrika, det vil si Nord-Afrika, Algerien, og andre territorier i Amerika og i Oceania. Dette koloniriket, som var like stor som den engelske i 1945, var grunn til vanskeligheter, både på når det gjaldt utenrikspolitikk, når det gjaldt innenrikspolitikk, og den politikken som man selv måtte ha i Frankrike overfor disse oversjøiske områder. Og disse vanskelighetene har vært så store at den 4. republikk døde av dem.
Ce serait une erreur de croire qu'il n'y eut qu'une seule politique coloniale. celle de la répression ou celle de la force. En réalité, cette politique a varié selon les latitudes pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer, mais qui peuvent se résumer ainsi. Là où se trouvait une population d'origine européenne et là où il n'y avait pas de population d'origine européenne, la politique était différente. Ce phénomène n'est pas propre à la France. Si l'on prend par exemple la Grande-Bretagne, on constatera qu'elle a fait depuis la dernière guerre une politique extrêmement libérale aux Indes, au Ghana, peut-être même au Nigeria. Et que par contre, elle adopta une politique de rigueur et de répression au Kenya. Pourquoi cette différence? Parce que là étaient des terres où ne vivaient pas de sujets de ce pays et où l'on n'espérait pas implanter une population, tandis que là se trouvaient des terres où le pays colonisateur souhaitait voir sa race se perpétuer. Ce souci, peut-être louable, n'est pas nécessairement mauvais. Mais pour l'instant, je me contente de faire une analyse sans autre préjugé, et je constate, comme vous, que la politique coloniale n'a pas formé un bloc. En France, il faut examiner le problème de l'Indochine, celui de l'Algérie, celui de l'Afrique noire, et nous constaterons en examinant les choses de près, que la France a réussi ou échoué, ici ou là, selon des politiques extrêmement différentes.
De Villeneuve fell, otro att Frankrike bara haft en politik när det gäller kolonierna, det att bruka makt. I realiteten så har det varit stora variationer här och där. Det har varit forskjellig politik eftersom det var europeiska inbyggare på stedet eller bara infödda. Men detta är inte ett typiskt fenomen, ett fenomen som är typiskt för Frankrike. Hvis man ser hvordan England har handlet sin kolonipolitik, så ser man att de har handlet liberalt i India, Ghana, möjligen också i Nigeria, men har måttet bruka makt i Kenya. Och varför detta? För det där i Kenya så var det huvudsakligt en europeisk population som man hade att göra med. För ögonblicket så söker jag bara att analysera problemen, men man kan allikevel trekke denne slutningen at det har ikke vært en politikk når det gjelder koloniene. Politikken har ikke vært fast og dannet en blokk. Frankrike har hatt for eksempel mange problemer. Det har måttet ta opp politikken for Indokina, for Algerie, for den sorte Afrika, på forskjellig basis. På visse steder har den klart seg, på andre steder har den ikke hatt noe suksess. Ved å bruke forskjellig politikk.
Je vais faire une parenthèse pour demander si la méthode que nous avons adoptée avec notre aimable interprète est la bonne. Je pourrais continuer, si vous voulez, sans interrompre. Mais cela me démontre que la langue française est véritablement très implantée à Oslo. riche, plus alors que nous le pensions. Plus que nous le pensions. Ce qui, après tout, est un satisfecit à ceux qui se sont acharnés à ce travail. Et puis aussi aux qualités d'études des étudiants norvégiens. Alors peut-être préférez-vous que je parle un peu plus longtemps, quitte à ce que notre traducteur résume de temps en temps. Mais moins souvent. Vous préférez ? Bon. C'était pour vous faciliter, n'est-ce pas, la compréhension, puisque je ne... Je vais maintenant citer un exemple de l'incohérence de la politique coloniale. Je pourrais trouver de nombreux exemples dans la politique française. Ne croyez pas que ce soit le fruit d'une vieille rivalité. Je vais prendre un exemple dans la politique britannique. En 1949, je suis allé à Accra, capitale de la Gold Coast, devenue le Ghana. J'ai voulu voir le chef de l'opposition, M. Kwame Nkrumah. Il était en prison. L'année suivante, passant par Accra, capitale de la Gold Coast, devenue le Ghana, j'ai voulu à nouveau accomplir la même démarche. M. Kwame Nkrumah était chef du gouvernement. Quelques années plus tard, c'était l'année dernière, je représentais la France au fête de l'indépendance du Ghana. Et j'étais le témoin d'une évolution qui tout de même avait été rapide. Il y a en Afrique noire française 12 territoires. 8 en Afrique occidentale et 4 en Afrique équatoriale. 11 chefs de gouvernement élus au suffrage universel ont voté il y a quelques jours oui à la Constitution française. C'est dire qu'ils sont attachés à la France. Eh bien, sur ces 11 chefs de gouvernement, j'en ai personnellement, lorsque j'étais ministre de la France d'outre-mer, sorti 7 de prison. Cela prouve, au minimum, qu'il existait un apport positif de la France pour que, passant au-delà de leurs inconvénients personnels, ils aient finalement choisi de rester à ses côtés. Mais c'est tout de même un peu d'incohérence. C'est en 1946 que la première guerre coloniale française a pris naissance. Après ce que l'on a appelé les Vêpres tonkinoises, une révolte un jour au mois de décembre 1946, des Français doivent être massacrés à Hanoï, capitale du Tonkin. L'autorité militaire réagit comme c'était évidemment son devoir. Et cependant, voici que la France s'engage dans un engrenage militaire qui devait conduire à la conférence de Genève 7 ans plus tard. Certains hommes politiques, dès ce point de départ, protestèrent, des chefs militaires aussi. C'est ainsi que le général Leclerc, le maréchal Leclerc, qui fut l'un des compagnons du général de Gaulle dans la reconquête de la France, écrivit en 1946 un télégramme à son ministre, prononcé, disait-il, et tout de suite, le mot d'indépendance. Ce mot ne fut prononcé que 3 ans plus tard et ne fut prononcé qu'au bénéfice de nationalistes amis et non pas après une négociation avec l'adversaire. La guerre ne s'arrêta pas le nationaliste ami disparu, le nationaliste adversaire l'emporta, et la France finalement quitta l'Indochine. Quand je dis quitta l'Indochine, militairement et politiquement, car il reste de grands intérêts économiques et culturels qui demeurent à travers les batailles et les combats préservés. La guerre d'Indochine a coûté des centaines de milliards à la France. Mais lorsque des hommes politiques français montaient à la tribune du Parlement en 1950 ou 1951, pour dire « il faut cesser cela dans l'intérêt de la France », ils étaient considérés comme de mauvais Français. C'est seulement sous le gouvernement de M. Médès-France en 1954, dont j'étais le ministre de l'Intérieur, que les conclusions furent apportées aux négociations de paix. Pourrait-on dire, par rapport à la situation d'aujourd'hui, que les partisans du général de Gaulle étaient contre la paix? Non. Le ministre de la guerre de M. Médès-France était le général Koenig. Et le ministre des Travaux publics de M. Médès-France était le président du parti gaulliste en France, M. Chaban-Delmas. Pourquoi vous donner ces précisions à vous, public lointain de nos problèmes intérieurs? C'est pour que vous compreniez précisément qu'il n'est aucun parti ni aucun homme à travers ces 12 dernières années qui ait eu dans ces domaines une politique continue. Pendant que la France se battait en Indochine, la situation s'aggravait au Maroc et en Tunisie, qui n'étaient pas des colonies, qui étaient des pays souverains, qui l'un en 1883 et l'autre en 1912, avaient instauré un régime original, spécial, entre eux et la France, qu'on a appelé le protectorat. Qu'est-ce que c'était que le protectorat ? Cela revenait à donner à la France la gestion des affaires étrangères, des affaires militaires, de la monnaie, et cela revenait en principe à laisser à la Tunisie et au Maroc leur administration interne. Malheureusement, à travers les années, les traités furent peu à peu déformés, et la qualité de notre administration voulut s'affirmer en s'occupant de tout. De telle sorte que les élites que nous formions, lorsqu'elles étaient formées, ne pouvaient pas accéder aux responsabilités publiques. Cet aspect des choses regrettable ne doit pas masquer l'apport extraordinaire en investissements économiques et financiers, sanitaires et culturels apportés par la France, mais cependant, de jeunes élites impatientes d'administrer elles-mêmes leur propre pays prenaient la tête de l'insurrection. Certains hommes politiques, déjà à l'époque, s'efforçaient d'expliquer à l'opinion française qu'après tout, cette évolution n'était pas forcément contraire aux intérêts de la France, qu'il était possible de signer avec ces élites formées par nous des contrats valables et durables, ménageant la présence française sous sa plus belle forme en Afrique du Nord, mais, comme toujours, sous le poids d'une propagande terrible, ces hommes politiques étaient, comme pour l'Indochine, représentés comme de mauvais Français. De telle sorte qu'il était difficile de se faire entendre, Nous étions, puisque j'en étais, des partisans de l'abandon. Alors qu'en réalité, nous étions des patriotes français qui estimaient que la présence de notre pays avait d'autres moyens de s'affirmer que la force de l'armée ou que la répression de la police. Il ne faudrait pas cependant que cet public norvégien, complaisant à m'entendre, bien que je ne parle pas sa langue, il ne faudrait pas que ce public norvégien s'imagine qu'on peut réduire le problème colonial à cette simple formule. Eh bien, puisque ces gens-là veulent être indépendants, pourquoi les en empêche-t-on? Ce serait une vue un peu trop simple du problème, je vais vous dire pourquoi. Bien que, personnellement, je sois favorable, chaque fois que cela me paraît utile, à l'indépendance des peuples. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple? Parce que le problème ne se pose pas de la même manière que, par exemple, la Norvège a pu le connaître il y a un demi-siècle. Parce que l'Afrique est un immense continent, très peu peuplé, et qu'on ne connaît pas en Europe sa réalité. J'ai moi-même voyagé à travers toute l'Afrique. Je suis allé plusieurs fois du Cap au Caire et de Dakar à Djibouti. Pendant 10 années, j'ai consacré 1 ou 2 mois de chaque année à visiter l'Afrique. Vous savez quel est le phénomène principal que j'ai remarqué? Non pas le conflit entre l'Européen colonisateur et l'Africain colonisé, mais le phénomène principal de l'Asie, c'est l'envahissement de l'Afrique par l'Asie. On ne souligne jamais cela. Et pourtant, chaque année, à travers l'océan Indien, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes chassés par la misère, le climat, la ségrégation, la guerre de religion, s'en vont à travers les espaces, dans le fond des cargos ou sur de légères pirogues, et abordent la côte africaine du côté oriental. Si vous allez dans toutes les villes importantes de l'Afrique orientale, depuis la côte des Somalies jusqu'au Cap, vous constaterez que tout le centre de ces villes est uniquement occupé par des Asiatiques et que l'occupation européenne, sous son aspect britannique, italien ou français, ne représente que très peu de choses à côté de la présence de l'Asie. Je vais vous donner un exemple. Dans l'histoire de France, les Français s'attendrissent souvent sur les souvenirs du passé. Et il existe une petite île dans l'océan Indien qui s'appelle aujourd'hui l'île Maurice, dont nos historiens, nos géographes nous disent qu'elle est une réussite rare du génie français. Ben, nous sommes sensibles au génie français, comme vous sans doute au génie norvégien. Au génie français. Et nous disons la preuve, c'est que cela fait déjà 2 siècles que les Anglais nous l'ont prise. Et pourtant, il y a 6000 personnes qui parlent français, tandis qu'il n'y en a que 2000 qui parlent anglais. C'est une réussite. Et on ne sait que ça si on apprend les livres qu'on enseigne à l'école. Je suis allé à l'île Maurice, j'ai bien trouvé les 6000 français et les 2000 anglais, mais j'ai trouvé aussi 400 000 hindous et 100 000 chinois. On les avait tout simplement oubliés. Si l'île Maurice votait demain, elle demanderait son rattachement à l'Union indienne, malgré les 6000 personnes qui continuent de parler français et qui d'ailleurs ont une prolixité littéraire incroyable, car elles publient pour 6000 personnes 14 revues littéraires. La présence de l'Asie est un phénomène colossal. Et les anticolonialistes, dont vous êtes, dont je suis, ont un peu tendance, parfois, à croire que parce que le blanc d'Europe aura laissé aux noirs d'Afrique, ou bien aux blancs de l'Afrique du Nord, le libre cours à l'indépendance, le problème africain sera résolu pour autant. Eh bien non, cela ne fera que commencer. C'est un aspect des choses que je me permets de souligner, en même temps qu'un autre, c'est le problème des religions. L'islam, en 1920, s'arrêtait aux franges du désert, du Sahara. Il est aujourd'hui sur le Congo, c'est-à-dire qu'il a gagné 2500 km en 20 ans, en 30 ans. Pour 10 animistes, les animistes qui croient que les choses ont une âme, que Dieu est dans le fleuve, dans le soleil, dans la maladie, dans l'animal, pour 10 animistes qui sont polythéistes, qui se convertissent à une religion monothéiste, 7 se convertissent à l'islam, pour 3 au christianisme. Le jour où l'Européen sera absent de l'Afrique, le problème des traditions de l'Afrique noire, que les anticolonialistes dont vous êtes et dont je suis voudraient assurer la permanence grâce à l'indépendance, se trouveront autant menacés que lorsque nous y sommes. Ces deux observations nous permettront de modérer nos jugements sur un certain nombre de points. La France a observé 2 politiques différentes en Afrique. Une politique de répression en Afrique du Nord, en face du panarabisme, et une politique de conciliation en Afrique noire. La politique de force en Afrique du Nord a abouti à l'indépendance de la Tunisie et à l'indépendance du Maroc, ainsi qu'à la perpétuation de la guerre d'Algérie. La politique de conciliation en Afrique noire a abouti à un extraordinaire mouvement d'amitié et de solidarité entre les peuples noirs et la France. Il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez que l'Afrique noire française est le seul point du monde où les peuples colonisés, anciennement colonisés, vivent en fraternité avec un peuple colonisateur. Évidemment, parce que la France n'ayant pas de population d'origine blanche, il ne s'est pas établi une ségrégation sociale et politique sur place. Et de ce fait, les populations noires ont pu, dans leur sein, trouver des élites, et ces élites n'ont pas trouvé de concurrence pour diriger leur propre pays. Aujourd'hui, en Afrique noire, tous les territoires sont dirigés par des hommes élus au suffrage universel et qui gouvernent leur pays pour à peu près tous les domaines de la vie politique comme ils l'entendent. Un référendum vient d'avoir lieu, je vous l'ai dit tout à l'heure. 11 pays ont voté pour la France à 97% des suffrages et un pays a voté contre le référendum à 97% des suffrages. Disons que Il s'est produit dans les deux sens un phénomène identique. Mais je suis certain, voyez-vous, que la construction coloniale de la France, commencée depuis 10 ans en Afrique noire, aboutira un jour à l'indépendance de ces pays dans la communauté organique qui les unira à la France. Alors que partout où la politique de force et de répression a assumé ses méfaits, je crains, je ne dis pas j'espère, je crains que nous n'allions à des échecs. Et c'est ainsi que se pose le problème le plus grave pour la France, qui est le problème de l'Algérie. Très difficile à résoudre. Très difficile parce que il existe plus de 8 millions de musulmans et un peu plus d'un million d'Européens de toutes sortes, et que ces deux populations coexistent, cohabitent sur le sol algérien, mais ne se fondent pas. Or, qui pourrait souhaiter l'indépendance de l'Algérie si l'indépendance doit aboutir à l'élimination brutale de la minorité européenne, de même que qui pourrait souhaiter la victoire de la minorité européenne qui, comme les Européens d'Afrique du Sud, pratiquerait la ségrégation. Le problème est presque insoluble. Si l'on dit indépendance, que deviendra une minorité travailleuse qui a acquis des droits sur ce sol, qui en est à la 5e génération, qui s'accroît tous les jours? Et si l'on ne dit pas indépendance, que deviendront 8 millions de gens qui estiment que leur droit à vivre indépendant est l'égal de celui des autres? Voilà le problème devant lequel se trouve la France, problème que ne résoudront ni les insultes, ni le terrorisme, ni la guerre. En 1935, il existait un homme, chef des mouvements, non pas d'insurrection, mais de revendication. C'était M. Ferhat Abbas. Il est aujourd'hui chef du gouvernement algérien du Caire. M. Ferhat Abbas écrivait une phrase que j'ai là, dans laquelle il disait « J'ai lu l'histoire de mon pays. J'ai cherché dans nos cimetières. J'ai interrogé les vivants et les morts. Je n'ai pas trouvé l'Algérie. Si je l'avais trouvée, j'aurais combattu pour elle. Elle n'a pas d'histoire. Je demande à la France de recevoir dans son sein l'Algérie. » C'est M. Ferhat Abbas qui écrivait cela en 1937. En 1954, je rencontrais Ferhat Abbas et je lui disais « Le nationalisme algérien, vous l'avez combattu ?» Et il m'a dit « Je ne renie pas ce que j'ai dit dans le passé. L'Algérie n'a pas d'histoire. Mais la guerre entre l'Algérie et la France commence à lui en faire une. Le nationalisme algérien vient de naître dans le sang. » Voilà le danger pour la France. Comment arrivera-t-elle à empêcher que la vague de l'indépendance, venue des fins fonds de l'Asie et qui a emporté en 15 ans, 1 milliard d'êtres humains, la Chine, avec la victoire de Mao Tse-tung, a chassé les dernières présences coloniales, 600 millions d'êtres vivants. L'Inde, 250 millions. L'Indonésie, 100 millions. L'Indochine, 25 millions. Et puis, tous les États qui, depuis l'Indus jusqu'à l'Atlantique, s'égrènent sur la surface du globe. Comment la France résoudra-t-elle ce problème? Mais je dirais aussi par-dessus votre tête aux nationalistes algériens, comment le résoudrez-vous si vous prétendez par la force emporter l'indépendance? La minorité européenne créera, comme l'État d'Israël, un petit État indépendant qui s'isolera du monde arabe et qui, par la force, réussira à empêcher que l'Algérie indépendante soit une Algérie unifiée. Alors, y gagnerez-vous? Il n'y a pas d'autre solution, je le crois, mesdames et messieurs, que dans une solution de caractère fédéral, où les deux communautés pourront enfin vivre ensemble, alors et après seulement, on parlera utilement d'indépendance. Mais, mesdames et messieurs, comment expliquer, ce sera la dernière partie de cet exposé avant les questions que vous poserez, comment expliquer que ces événements aient abouti à la révolution, si l'on peut dire, que vient de connaître la France. Révolution, c'est un bien grand mot. À vrai dire, la France du mois de mai dernier ressemblait un peu à ces pays d'Amérique du Sud, sans vouloir le choquer en quoi que ce soit. Je ne les choquerai pas en leur disant que nous les imitons. Ou à ces pays du Proche-Orient qui font des révolutions dont personne ne s'aperçoit. Enfin, je veux dire, seuls les initiés, les spécialistes. Eh bien, la révolution d'Alger, elle s'est produite entre spécialistes. Il y avait d'une part ce qu'on appelle les colonialistes, une minorité parmi les représentants de la France en Algérie, mais les plus puissants et les plus riches, qui défendaient des intérêts, des privilèges, à mon avis inadmissibles, intolérables. Il y avait l'armée, qui, elle, ne défendait pas ses intérêts, parce que l'armée est composée d'hommes qui sont de passage, qui tiennent des terres sur lesquels ils n'ont pas d'intérêt personnel et qui comprend donc mieux que les maîtres de la colonisation la nécessité de l'évolution. Mais la colonisation qui voulait garder ses privilèges et l'armée qui voulait garder l'Algérie à la France en abattant les privilèges étaient au moins d'accord sur ce point, c'est que la 4e République les gênait les uns et les autres. Ils se sont donc alliés pour un moment. Et c'est ainsi qu'ils ont réalisé, au mois de mai dernier, un petit coup de force à Alger, qui a suffi sans doute à renverser le régime. Si le régime a été renversé avec si peu de choses, c'est parce qu'il ne tenait pas debout. Nous étions quelques-uns à penser qu'il fallait résister. Je me suis épuisé la voix à le dire à la tribune de l'Assemblée, sans succès. La 4e République était déjà abattue avant même qu'on ne la menace. La démocratie française n'avait pas trouvé son véritable fondement, mais le remède, à mes yeux, comme à celui de quelques autres, ou plutôt l'analyse, n'était pas de dire que la République succombait parce qu'elle avait besoin d'autorité, mais à notre avis, elle succombait parce qu'elle n'avait pas respecté suffisamment les règles fondamentales de la démocratie. En 1956, une majorité politique s'était prononcée pour que mon pays abordât franchement une nouvelle période dans ses rapports avec les peuples colonisés. Mais cette politique voulue par le peuple français n'a pas été appliquée par ceux qui en avaient la charge. d'où une sorte de déception, de désarroi et d'indifférence de l'opinion publique, qui ne s'est réveillée au fond que pour approuver le coup de force militaire. Si l'on voulait donc résumer l'histoire de ces 12 années, on pourrait dire que finalement le problème colonial, en arrachant morceau par morceau à l'ancien empire français certaines de ses possessions, a fini par renverser le régime qui n'avait pas su aborder carrément ce problème. En somme, les Français ont fait, à l'échelon du monde, une crise de nationalisme. Et ils considéraient que toucher à Saïgon, Tananarive, Oran, Alger, Tunis ou Rabat, c'était comme si on voulait nous enlever la cathédrale de Strasbourg. Nous avons fait une crise de nationalisme appliquée au problème colonial. Partout où le drapeau français flottait, nous réagissions comme s'il s'agissait d'une vieille province française. Ce réflexe estimable était simplement historiquement absurde. Et au lieu de comprendre, comme on commence à le comprendre, que la solution de nos problèmes, c'était de faire confiance aux élites que nous avions formées, c'était de leur donner nous-mêmes les responsabilités, c'était de leur dire maintenant c'est à vous de décider. Alors, j'en suis sûr parce que je les connais tous, que tous auraient signé avec la France un contrat et des obligations réciproques. Ceci n'a pas été fait, la République a succombé. Elle a disparu, elle est la victime du problème colonial, elle supporte comme l'empire de 1870, l'empire de Napoléon III, a été renversé parce que la France a perdu la guerre contre l'Allemagne, contre la Prusse. En 1958, la République a été renversée parce que la France n'a pas gagné la guerre coloniale. Cette assimilation, dans les réactions populaires, a quelque chose d'incompréhensible pour un étranger, qui sait bien que l'Alsace, ce n'est pas la même chose que le Tonkin. Mais c'est ainsi. Et votre devoir, à vous qui m'écoutez, qui voulez comprendre la France, c'est aussi de bien vouloir comprendre que notre opinion publique, qui s'est ralliée au coup de force d'Alger, en votant à l'immense majorité pour la constitution actuelle, que la France, que l'opinion publique française a souffert d'une sorte de complexe devant l'opposition du monde entier, devant la mise en accusation de son œuvre à l'Assemblée des Nations Unies, devant le désaveu de ses meilleurs amis, alors que si on avait raison de la critiquer pour l'incompréhension majeure qu'elle avait montrée à l'égard du problème colonial, il eût été juste, en revanche, de reconnaître que la France n'avait jamais été un pays d'oppression et avait réalisé d'extraordinaires progrès économiques et sociaux dans tous les territoires qu'elle avait occupés. Et cette sorte d'injustice qui venait se greffer sur une critique valable a donné aux Français le sentiment qu'ils étaient victimes de l'opinion internationale et les a renforcés dans leur réaction d'amour-propre national. Vous me questionnerez sans doute tout à l'heure sur la situation actuelle. Je le suppose, on me l'a dit. J'y répondrai. Mais je ne voudrais pas vous fatiguer davantage en m'exprimant dans une langue dont vous auriez le droit de ne pas connaître toutes les nuances. Je suis un homme politique. Je suis encore parlementaire. Je suis un des très rares parlementaires français qui, en dehors des communistes, ont refusé de voter l'investiture du général de Gaulle. Et qui, encore plus rares, ont refusé le lendemain de déléguer leur pouvoir au général de Gaulle. Il n'y en a eu que 43 sur 600. Je suis aussi un des rares hommes politiques français qui ont voté non à la Constitution. Je suis donc très libre dans mes propos. La France continue d'être une démocratie, puisqu'on peut y parler comme je vous parle ce soir. Mais il existe des menaces. Ces menaces viennent-elles du général de Gaulle? Non pas de lui, mais de tout ce qui le suit, de tout ce que sa présence autorise à espérer. La responsabilité de la France maintenant lui appartient. Je ne sais comment il l'assumera. Mais les forces qui se sont réveillées, les forces du nationalisme français que je combats, qui se sont réveillées non pas grâce à lui, mais avec lui, sont pour les démocrates français un danger. Pour la démocratie française, un grand risque. J'ai confiance. Mais je pensais que en parler avec des étrangers amis, dont je suppose qu'ils ont l'esprit ouvert, à la fois sur les défauts de la France, mais aussi sur ses qualités, qui n'ont pas de préjugés contre nous, et qui comprendront très bien que si je m'exprime dans mon pays avec vigueur contre ce que je reproche à mon gouvernement, ce n'est pas mon goût de le faire devant vous. Au contraire, je serais satisfait si, grâce à notre échange de vues tout à l'heure, vous avez le sentiment que la France de 1958, aussi surprenante ou inquiétante qu'elle puisse paraître, reste encore, dans le monde occidental, une chance.
Det norske studentesamfunn vil jeg få lov å takke François Mitterrand fordi han kom den lange veien fra Frankrike og opp hit og holdt det foredraget for oss han har gjort i kveld. Jeg er overbevist om at måten han har lagt dette opp på og det han har gitt som sin analyse av situasjonen, bakgrunnen for den og sin egen mening av den, har gitt oss alle her i kveld en annen forståelse av hva vi kaller problemet Frankrike enn det vi hadde før vi kom. Derfor vil jeg få lov å takke ham hjertelig, både fordi han kom og for det foredraget han holdt. Tusen takk. Jeg går ut fra at før vi tar pause, så skal vi prøve å ta et sammendrag på norsk. Etterpå vil det da bli en kort pause. Etter pausen vil vi få litt visesang, og så vil det bli adgang til å stille spørsmål og til diskusjon.
Jeg lurer på det sammendraget ganske kort. Jeg inntrykker at de aller fleste, i hvert fall her nede i salen, har forstått av mitt krav sagt.
Nei. Er det et allment ønske?
Ja. Det har de skjedd med oversettet, at det også har oversettet.
Jeg vil da be alle de som har forstått mitt rar godt om å i alle fall forholde seg rolig mens vi får oversettelsen ved La Boudet. Vær så god. Jeg vil appellere til solidariteten.
Jeg får fortsette hvor. Du har kommet til da. Mitran fortalte at i 1946, da Indochina-krigen raste, så var det sterke krefter i Frankrike, blant annet Marshal Leclerc, som arbeidet for at disse folkene skulle få sin selvstendighet. Men den selvstendigheten ble ikke gitt til de innfødte som hadde muligheter for å kunne styre sitt land, og krigen fortsatte. Krigen kostet da milliarder, og politikerne, som i Frankrike, ba om å få stoppet det, og Mitran var en av dem, ble da betegnet som dårlige franskmenn. Pussig nok så lyktes det til slutt Mendès France å få et stopp på dette, og en skal også merke seg at i Mendès France regjering satt blant annet to gaullister. Noe som viser at det ikke var noe sammenheng i den kolonipolitikk som de forskjellige partier drev i Frankrike. Mens man drev med krigen i Indokina, så stablet problemene seg opp i Tunis og Marokko. Mitran mener at grunnen til disse problemene er først og fremst å finne i det faktum at den franske administrasjonen hadde overtatt alle ting der nede og stengte fullstendig de opplyste innfødte fra å komme frem til sitt eget lands administrasjon. De politikerne som varslet om dette i Frankrike, og Mitran var en av dem, ble da også betegnet som dårlige franskmenn. Men man må ikke tro at problemet er så enkelt, som at problemet var så enkelt, og at man kunne bare gi disse folkene sin selvstendighet med en gang. Hvorfor er det ikke så enkelt? Da fortalte Mitran om Afrika. Afrika er et stort kontinent, men som nesten ikke er befolket. Selv kjenner han meget godt Afrika, for å ha reist der nesten to måneder hvert år i en tiårsperiode. Og det som han har merket, er at Afrika etter hvert blir befolket fra Asia. I alle store byer i Afrika finnes kraftige asiatiske kjerner. Et annet eksempel han hadde, som viser hvor lite man kjenner til disse problemene i Frankrike, er at man kan lese i geografibøker at i Mauritius finnes 2000 engelsktalende og 4000 franske talende, og ikke noe mer. Da han var på Mauritius, så fant han, sier han, 400.000 hinduer og 100.000 kinesere i tillegg, som ganske enkelt er blitt glemt. Folk som har en antikolonialistisk innstilling, og det renner han seg forover, tror ofte at Afrika-problemet ville være ute av verden dersom en kunne gi de sorte selvstendighet. Men en må være også klar over et annet problem i denne forbindelse, det er spørsmålet om religion. Nå har islam, for eksempel, flyttet sin sørligste grense ned til Kongo, og en må huske at av 10 animister som omvendes til andre religioner, blir 3 kristne, og 7 går til islam. Der også er en annen fare. Så gikk han over til å omtale den politikk som Frankrike har fulgt i Afrika. en maktpolitikk i Nord-Afrika, for eksempel, som resulterte i at man mistet Tunis og Marokko, og fortsetter nå krigen i Algier, og en samarbeidspolitikk som ble fulgt i den sorte delen av Afrika, og som ga gode resultater, hvor det nå virkelig er broskap mellom de innfødte og europeerne. Han nevnte at i Afrika finnes det 12 forskjellige områder, hvorav 11 har stemt for forfatningen nå i den folkeavstemning som var, og bare én imot. Og dette viser, sier Mitra, at en samarbeidspolitikk fører til gode resultater. Han er også bevisst om at dersom man fortsetter med en slik politikk i Afrika, så vil man komme til en union som vil virke effektivt, men han frykter sterkt at maktpolitikken aldri vil komme til noe. Så gikk han over til å analysere problemet i Algerie. Han stilte to spørsmål. Hvis selvstendighet blir gitt til folkene der, hva vil det da bli av minoriteten, av den europeiske minoritet som har virket i landet i opptil 5 generasjoner? Hvis ikke selvstendighet blir gitt, hva vil de 8 millioner innfødte gjøre for å oppnå den? Han nevnte også som eksempel på at nå er nasjonalismen vekket i Algier, at i 37 traff han den mann som nå er regjeringssjef, er den algerske regjeringssjef i Kairo, og som den gangen arbeidet for at Algier skulle bli innlemmet i Frankrike. Siden da hadde ikke vært ført noen bestemt politikk for Algier fra Frankrikes side, og senere på grunn av maktpolitikken og av krigen som blir født der, så har Algerie funnet seg selv, og den algerske nasjonalismen er blitt født. Så gikk han over til å omtale offiserenes kupp i Alger i mai sist, og nevnte at dette efter hans mening var en revolusjon av spesialister. Disse spesialistene renner han for å være to kategorier. Den første er kolonialistene, det vil si en gruppe mennesker som forsvarer sine privilegium der nede, og er motstander av ethvert sosial fremskritt. Og den andre kategorien er offiserene, som selvfølgelig ikke forsvarer noen lokale interesser, som gjerne vil beholde Algier for Frankrike, men avskaffer da gjerne friheten der. Han nevnte at man skulle ikke legge så mye i det kuppet som hadde styrtet den 4. republikk, fordi efter hans mening var republikken allerede død før, av den grunn at den ikke hadde klart å holde respekten oppe for demokratiets grunnleggende regler der nede. Folket hadde i Frankrike mistet fullstendig interesse for det politiske, og våknet først for å akseptere offiserenes kupp i Algerie. Derefter nevnte Mitra at han vil da svare til spørsmål om den aktuelle situasjonen i Frankrike, men han vil allikevel nevne at det som har ledet til at den 4. republikk er død, er at franskmennene i de årene som har gått har vært nasjonalister, ikke bare i Frankrikes grense, men også i verden for øvrig, og har betraktet Saren Tonkin for å være det samme som Elsass. Der ligger efter ham grunnen til at det franske systemet, det gamle systemet, ikke kunne holde lenger. när det gällde kolonierna, så förstår man nu det han alltid har förfäktat, att man må gå till och ge de infödda anledning till att överta sina respektive lands styre. Och hvis man gör det, så vill det leda till en full förståelse mellan disse folkene och Frankrike och förstärka den union som allerede är till stede. När det gällde fransmännens stilling vis-à-vis de andra land, så har fransmännen, säger Mitterrand, lett av en slags komplex, där de så att sina bästa vänner kritiserade ganska starkt, bland annat i FN, den kolonipolitik som Frankrike drev med. Fransmännen har följt detta som om de blev slätt behandlat, och deras reaktion har gett sig uttryck nu i en ny nationalism. Men han vill också understreka på till slut att Frankrike framdeles är en demokrati. För exempel han kan ju i Frankrike tala öppet på samma måte som han har gjort det här utan att det sker något med han. Men han säger att det är fare på färde. Denna faren kommer inte från de Gaulle, men från de nationalistiska krafter som har vaknat upp med de Gaulles komme till regeringen. Dette är en stor risiko för det franska demokrati. Och han slutade med att säga att efter hans mening så är Frankrike i 1958 så att det kan lyda framdeles en makt som täller i den västliga världen. Tack.
Jag får lov att tacka Laboré så mycket för översättelsen. Det är inte bara här och nu han har hjälpt oss. Han hjälpte oss igår aftes och han hjälpte oss under presskonferensen idag. Tusen tack. Så tar vi en ganska kort paus, inte mer än 10 minuter. Och det är avgång till att ta in sig till debatt och till spörsmålställning i löpet av denna pausen.